Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce numéro 50 de ITcast du 17 novembre 2017. Avec Maxime, on vous a sélectionné des actualités intéressantes parmi lesquelles les nouveautés du sous-système Linux pour Windows et de la console. Une série de nouveautés concernant la sécurité dans Windows 10 17.09. Il est aussi question de co-management avec SCCM et Intune. Et puis évidemment, les news d'Azure AD et d'Azure. Avant de commencer, un petit rappel. Si vous souhaitez participer avec nous au podcast, contactez-nous, n'hésitez pas. Toutes les infos sont sur le site itcast.io. Bonjour à tous et bonjour Maxime.
Bonjour Pascal.
Tu vas bien Maxime au milieu de tous tes voyages ?
Eh super, je suis revenu bronzé là, j'étais en déplacement en Guadeloupe pour 2 semaines pour un de mes clients, donc super.
Super.
Donc, le choc thermique fut compliqué au retour, mais c'était sympa.
Effectivement, là depuis quelques jours, ça s'est compliqué en région parisienne.
Ouais.
Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est l'épisode 50 de ITcast. Et la coïncidence aussi, c'est que ça fait quasiment 3 ans, jour pour jour. En fait, c'était le 31 octobre 2014 qu'on a commencé ce podcast. Donc voilà, 3 ans, 50 épisodes. C'est quand même pas mal. On n'est pas aussi régulier qu'on aimerait, hein, mais bon, ça, c'est les aléas de la vie et du boulot.
C'est sûr. Bon, en tout cas, bravo hein, pour ces 3 ans et puis pour ce 50e. Il sera d'une aussi belle qualité que les précédents, j'en doute pas.
Voilà, et puis on en reparlera au 100e, j'espère. Dans moins de 3 ans, j'espère.
Oui, tu as quelque chose d'autre à nous annoncer, peut-être ? J'ai cru comprendre donc, que tu avais changé de poste chez Microsoft.
Ah oui, effectivement, tu es bien renseigné, Maxime. C'est vraiment tout neuf. Et je vais faire partie en fait, de la division OCP, la division partenaire. Et dans cette division, je ferai partie des équipes techniques, et en particulier de l'équipe des CSA, les Cloud Solution Architects. Pour les partenaires. Donc je vais participer avec les autres équipes en relation avec nos partenaires à l'élaboration des offres et la montée en compétence des partenaires sur nos technos cloud, en particulier sur les technos sécurité.
Ah bah ça tombe bien, c'est un de mes sujets aussi de prédilection. Exactement. Donc on sera sûrement amené à travailler ensemble, j'espère.
Donc effectivement, l'identité, ça en fait partie.
D'ailleurs, une petite pensée pour peut-être certaines personnes de Microsoft et des partenaires qui sont peut-être en ce moment en workshop en Israël. Alors, je devais y aller cette semaine, mais malheureusement, j'ai pas pu me libérer. Donc, il y a des workshops sur les produits très orientés sécurité là-bas, donc AIP, hein, Azure AD, ATA, Cloud App Security, etc. Donc, voilà, encore une fois, ça montre que Microsoft est vachement à l'écoute de ses partenaires et de ses clients. Et ça fait plaisir. Déjà, l'année dernière, j'y étais. On a fait pas mal d'ateliers, de feedback, de discussions sur la roadmap. Et donc, c'était super intéressant.
Et voilà, je suis arrivé trop tard.
Ouais, bon, pour l'année prochaine.
Pour l'année prochaine. Là, ils sont à Tel Aviv, effectivement, cette semaine.
Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Pascal ?
Alors, on va parler de plein de choses. Je crois que c'est surtout toi qui vas parler aujourd'hui. Mais je vais commencer... par les petites choses qui me tiennent toujours à cœur, hein. Tu sais bien que j'aime bien les histoires de lignes de commande dans Windows, moi c'est un petit peu mon dada.
C'est ton plaisir.
Et je vais commencer par ça, tiens, vous savez qu'il y a la Windows 10 Fall Creators Update, donc la 17.09 qui est sortie, je vais pas dire de bêtises, mais c'était en octobre.
Elle est sortie le 17 octobre,
ouais. 17 octobre, un petit mois.
C'est ça.
Donc on devrait tous être à jour maintenant. Bon, c'est
à peu près, oui.
C'est parfois douloureux quand il faut descendre des 4 gigas et quand on est à la maison. Ça
Hein. Ça change pas, ça.
Ça change pas. Cela dit, il n'y a pas que Windows qui fait ça. Hein. D'autres OS font exactement la même chose.
Ah bah, même les OS mobiles. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai récupéré iOS 11 et des poussières. On était à plus de 1 giga hein. Pour un OS mobile. Ça prend quand même de la place aussi.
Et macOS, dernière version, donc le High Sierra, c'était peut-être pas 4 gigas, mais c'était quand même pas mal.
Ouais.
Donc,
ça devient la nouvelle norme, quoi.
Ouais. Donc, Windows 10 Fall Creators Update 17.09. Dedans, il y a quelques améliorations. Bon, on va pas revenir sur toutes les améliorations de Fall Creators Update. Hein. Je crois que tu vas en parler d'ailleurs pas mal tout à l'heure. Mais moi, simplement, ce qui m'intéresse là, c'est la console et les nouveautés de Windows Subsystems for Linux. On a déjà parlé hein, de Windows Subsystems for Linux plusieurs fois, longuement, ouais, un petit peu dans tous les sens. On a déjà parlé du fait qu'il y avait maintenant plusieurs possibilités, plusieurs systèmes Linux sur ce WSL. En l'occurrence, il y a Ubuntu, OpenSUSE et SUSE Linux Enterprise Server. Fedora est prévu, mais manifestement, je ne le vois pas dans le store. Bien qu'on en parle dans le store. Je ne sais pas si tu l'as... Non, tu n'as pas cherché ça.
Alors, Fedora, non. Alors, c'est effectivement, d'après ce que je vois sous mes yeux, Fedora arrivera dans les prochains mois.
Voilà, c'est pour ça.
Voilà. Voilà, donc ce sera dans le lien qu'on vous mettra dans l'article. Bon. Ça devrait pas tarder. Je pense que ça arrivera début 2018. Du coup.
Donc si on prend les choses dans l'ordre, WSL, donc Windows Subsystem for Linux, c'est maintenant le nom officiel de tout l'ensemble. On parle plus de bash sur Windows parce qu'il y avait une confusion. On parlait de bash sur Ubuntu sur Windows, qu'on contractait en bash sur Windows. En fait, c'est pas que ça. Donc voilà, on parle de Windows Subsystem for Linux et on englobe là-dedans l'ensemble des fonctionnalités, dont les plusieurs OS Linux qu'on peut installer par-dessus. Donc, WSL n'est plus en bêta. Ça, c'est important. C'est une fonctionnalité globally available, comme on dit, de Windows 10. On installe donc ces distributions Linux par le store. Donc, du coup, l'installation et la désinstallation changent de méthode. En particulier, auparavant, on avait une ligne de commande LXRun qui permettait notamment de désinstaller le tout en une ligne de commande. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. On clique à droite sur l'icône qu'on a installé dans le Start menu. On fait un install et ça va tout désinstaller comme n'importe quelle application du store, en fait. C'est beaucoup plus simple à gérer. Donc, plusieurs distributions Linux, on en a parlé. Ça ne nécessite plus d'être dans le mode développeur de Windows 10. Hein, au départ, il fallait activer le mode développeur pour pouvoir l'installer. C'est plus le cas, donc voilà, une chose de moins à faire quand on veut l'installer, bien que ça s'adresse toujours aux développeurs, hein, c'est toujours une fonction qui est positionnée pour les développeurs,
ouais, pour avoir les outils vraiment clients, hein. C'est pas destiné à,
oui,
voilà, oui, à faire exactement. Tourner des apps ou tout ça, c'est ce que tu nous avais précisé dans les précédents podcasts,
ouais, c'est pas fait pour exécuter des démons, des serveurs web, etc. Cela dit, on peut le faire, mais ces process ne tournent que tant que le shell est lancé. Si on ferme le shell, l'application qu'on a lancée s'arrête. C'est bien ça qui fait la différence avec des process serveurs d'un serveur. Il faut y penser parce qu'une des nouveautés également, c'est que WSL arrive dans Windows Server. Donc dans Windows Server version 17.09, on a possibilité d'installer WSL. Donc ça veut dire que sur une machine de dev avec un OS serveur, on peut avoir notre shell bash. Ou autre d'ailleurs, on peut installer d'autres shells que bash sur notre Windows Subsystem for Linux. Et donc en particulier, avec les versions 17.09 qui sont mises dispo maintenant dans Azure, on peut avoir donc des VM Windows Server 17.09 avec WSL.
Par contre, sur la version serveur, on ne peut pas passer par le store, du coup. De mémoire, à un moment, il fallait aller récupérer les packages et installer à la main, non ?
C'est tout à fait une bonne remarque. Et comme je n'ai pas fait l'installation sur un serveur, j'imagine que l'installation doit se faire à l'ancienne méthode.
Ouais, à vérifier. Hein,
à vérifier, je n'ai pas vérifié
non plus. Ouais. Je réfléchis à voix haute.
Oui, ben, tu as raison, et oui, effectivement, c'est une différence. On supporte maintenant les communications série, les ports série et USB. Donc voilà, on a accès aux ports série et aux ports USB. Donc ça peut être intéressant dans certains scénarios IoT pour aller communiquer directement avec des cartes ou autres équipements qu'on va brancher sur. Par exemple, j'ai en tête là une petite LED qu'on branche sur le port USB et qu'on peut programmer avec des programmes Python pour aller l'allumer dans telle et telle couleur, faire des cycles de couleurs, etc. Voilà, on va pouvoir utiliser ce genre de dispositif en USB depuis notre bash Linux sur Windows.
C'est top ça.
Ouais, oui, parce qu'on trouve le plus souvent les SDK, enfin les librairies utilisables dans des shells Linux que plus souvent que sur Windows. Quoi. Y a pas mal de correctifs, voilà, pas mal de corrections qui ont été faites. Les autres modifs qui concernent ça sur un sujet très connexe, c'est la console. Donc la console, il ne faut pas confondre la console et Bash. La console, c'est le process qui va héberger notre shell en ligne de commande, que ce soit un Bash, que ce soit un PowerShell ou cmd.exe. Hein, ça fait trois shells possibles dans Windows. Cette console, c'est elle, par exemple, qui va gérer... la taille de l'écran, l'émulation du terminal, l'émulation VT quand on est dans un shell bash, tout ce genre de choses-là. Les couleurs. Et donc, cette console a encore été améliorée. Alors déjà, elle avait été grandement améliorée avec le lancement de Windows 10, avec des choses comme le copier-coller en faisant CTRL-C, CTRL-V. Je ne sais pas si tu te rappelles ce passage-là.
Ah oui, ça avait vachement changé. Hein.
et oui, c'est le jour et la
ça
nuit.
Ça fait
quoi.
Du bien.
Ouais, oui.
Ah ouais.
Au lieu de faire clic à droite, tout ça, on pouvait faire CTRL-C, CTRL-V. Donc là, une de nouvelles améliorations. Donc on a amélioré l'affichage et l'émulation VT. Donc tous les petits bugs qu'on avait dans l'émulation, là, qui faisaient que quand on faisait du scrolling, qu'on venait en arrière, qu'on remontait, qu'il y avait toute notre historique qui avait disparu et tout, a priori, c'est corrigé. Donc on a une meilleure émulation VT, une meilleure gestion de l'affichage, notamment quand on redimensionne les fenêtres aussi. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, je vous conseille de l'essayer si vous passez votre vie dans une console sur Windows. C'est la gestion des couleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais jusqu'à présent, quand vous étiez dans un bash, il y a pas mal de couleurs qui vont être affichées, soit par le bash lui-même, quand on va afficher notre liste de fichiers avec tous les détails. En général, c'est coloré, ça. Soit dans VI parce qu'il y a de la coloration syntaxique. Et il y a des couleurs qui ne passaient pas du tout à l'écran, et notamment des couleurs qui étaient bleu foncé sur noir. Là, c'était horrible, quoi. En tout cas, moi, j'y voyais rien, quoi. Donc, il fallait aller changer à la main une variable d'environnement pour aller changer la couleur bleue par autre chose parce que c'était pas lisible. Et donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a permis une gestion des couleurs, de la palette en fait de couleurs. De façon à changer toutes les couleurs du terminal, indépendamment des codes couleurs ANSI qui sont utilisés par le. Enfin, VT, qui sont utilisés par les applications et le terminal. Donc, en particulier, on peut décider que, ben, à la place du bleu, on va afficher du bleu clair, parce que le bleu trop foncé, on le trouve trop foncé, etc. Donc, on a plein de modèles qui sont disponibles, notamment des modèles qui étaient dispo sur macOS pour iTerm et iTerm 2. Donc, des fichiers compatibles avec les environnements macOS, qu'on va pouvoir réutiliser comme source de palette de couleurs pour Windows, avec un outil qu'on a mis en open source et qui s'appelle ColorTool.exe. Donc l'outil lui-même est disponible dans GitHub, avec les sources et tout, vous pouvez le compiler vous-même, ou alors il y a un package avec déjà l'exécutable, et un paquet de palettes de couleurs, de schéma de couleurs, pardon, c'est le terme officiel, de color scheme, pour essayer. Donc vous avez la possibilité de changer la palette, vous avez également une nouvelle palette par défaut qui est plus lisible, qui est plus contrastée que la palette précédente, déjà par défaut sans rien faire. Donc déjà, si vous ne faites rien, vous constaterez que ça sera un peu plus lisible. Mais vous pouvez en plus, avec colortool.exe, aller changer la palette. C'est très simple à faire, c'est pas destructif, donc ça vaut le coup d'aller voir ça.
Ça paraît rien comme ça, mais c'est quand même vachement pratique, hein, quand tu traites beaucoup de trucs sur Linux.
Ah, mais moi ça m'a changé la vie, hein. Maintenant quand je fais LL, mes répertoires bleus, là, je les vois, quoi.
Ouais. Et puis, je crois que tu en as parlé tout à l'heure, mais là, je les redécouvre. Alors, je t'écoutais pas. C'est la possibilité, c'est vraiment de lancer plusieurs distributions en même temps. Et ça, c'est...
Ouais.
C'est vraiment sympa aussi.
Ouais. Exactement.
Donc, ça, c'était pas possible avant.
Il y a un autre truc aussi. Alors, j'ai pas encore testé ça parce que je suis pas un pro des environnements Linux, mais on supporte maintenant la commande chsh. Change shell pour changer le shell, pour remplacer bash par autre chose.
Ouais.
Et donc, voilà, il y a des gens qui ne se sont pas privés d'aller bidouiller tout ça. je mettrai le pointeur sur un article de quelqu'un qui a... comment elle s'appelle-t-elle ? Elle s'appelle Jessica Dean. C'est magnifique ce qu'elle fait. Elle avait fait ça pour macOS et elle a refait ça pour donc le support pour WSL dans Windows. Avec une personnalisation complète de l'environnement en ligne de commande, avec ZSH, TMUX et plein de choses. Donc voilà, ça vaut le coup. Si vous passez votre vie dans la ligne de commande, n'hésitez pas.
Top.
Voilà. Ok, bah sur ces histoires de ligne de commande, Maxime, tu voulais nous parler de sécurité ?
Ouais, alors niveau sécurité, effectivement, il y a quand même pas mal de nouvelles fonctionnalités qui ont été introduites dans la dernière version, la Fall Creators Update. Alors, le 23 octobre, donc Microsoft nous a fait un super blog post qui retrace en fait toutes les grosses fonctionnalités de sécurité et aussi de management qui ont été introduites du coup dans la 17.09. On vous mettra le lien, je vous conseille de le lire avec attention. Alors déjà, il y a parmi ces fonctionnalités, il y a Windows Autopilot qui nous permet donc de prendre un poste out of the box et de le configurer en fait avec tout un tas de paramètres d'entreprise et donc d'avoir un PC qui est prêt tout de suite et tout ça sans aucune infrastructure on-prem. Donc ça, c'est vraiment top. Après, on a tout un tas de fonctionnalités de sécurité qui tournent autour de la brique Windows Defender. Alors, il y a Windows Defender Application Guard. Ça, c'est la possibilité de lancer son navigateur Edge dans un environnement virtualisé et isolé du système et de dire telle ou telle application web. C'est une application d'entreprise, donc je peux... la faire tourner dans mon navigateur Edge classique. Par contre, toutes les URL dont je n'ai pas confiance, je les fais tourner dans Windows Defender Application Guard, qui est en fait une version de Edge complètement isolée du système dans une bulle applicative virtuelle. Et ça me permet en fait de prévenir les risques qu'on a quand on navigue sur des sites parfois douteux ou des sites piégés, des pages malicieuses ou ce genre de trucs. Ça, je vous conseille de regarder aussi sur cette partie-là. Ça se met en place assez facilement et c'est compatible que dans Edge. Après, on a Windows Defender ATP, Advanced Threat Protection. Donc ça existe déjà depuis un petit moment, hein, c'est pas nouveau. En tout cas, toute l'interface cloud qui permet de monitorer ce qui se passe sur les postes via Windows Defender ATP a été quand même revu. On a une meilleure visibilité des détections, des alertes au sein de cette plateforme cloud. Bien sûr, on a une amélioration de l'algorithme de détection sur les postes. Donc là aussi, pas mal de nouveautés sur la plateforme qui nous permettent d'exploiter la fonctionnalité encore de manière beaucoup plus simple. Après, alors je ne sais pas si vous connaissez Windows Defender Device Guard. Alors c'est une fonctionnalité qui est disponible dans Windows 10 Enterprise, qui est quand même assez contraignante. Le but, c'est en fait de verrouiller une machine en utilisant tout un tas de prérequis matériels, notamment au niveau de la puce TPM, des drivers, du kernel mode et du secure boot, par exemple. Le but, c'est de faire en sorte que le PC ne dévie pas d'une configuration qui a été appliquée par l'administrateur en termes de liste d'applications, en termes de drivers utilisés, etc. Le but, donc, c'est vraiment de faire une whitelist de tout ce qui est autorisé à tourner sur la machine et tout le reste sera par défaut bloqué. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui était quand même assez contraignante, notamment en termes de matériel compatible. Et donc, pour pallier en fait à ce problème, donc Microsoft a sorti Windows Defender Application Control, donc qui permet justement de se passer de ces contraintes hardware et de faire en sorte que on puisse valider la liste des applications et des drivers qui sont capables de s'exécuter sur la machine. Tout ça pour avoir un poste vraiment verrouillé. Donc on imagine ça surtout sur des postes assez critiques, hein. C'est pas forcément pour un poste utilisateur classique qui, sur lequel on change pas mal de versions d'applications, on installe des nouveaux trucs, etc. Là, c'est plutôt pour verrouiller des postes entre guillemets critiques. On imagine des postes qui utilisent des appareils médicaux ou des postes dans des centrales électriques ou centrales nucléaires ou ce genre de choses.
C'est en particulier ce qu'utilisent les administrateurs dans des configurations où on verrouille les postes d'administration. Dans une vidéo où apparaît Marc Krusinovic, on en parlait tout à l'heure offline,
ouais.
Maxime. Donc la vidéo où Marc Krusinovic parle de sécurité à un parterre d'agents du gouvernement américain, je crois. Il parle de sécurité Azure, et en particulier il montre que son poste est un poste verrouillé à partir duquel il peut faire de l'administration Azure, et donc il est verrouillé avec différentes technologies dont, alors je sais pas si c'est du device guard ou de l'application control maintenant, je sais pas, mais c'est du whitelisting, donc simplement uniquement les applications autorisées ne peuvent tourner, etc. Et quand il présente son PowerPoint, en fait, son PowerPoint tourne dans une machine virtuelle sur sa VM, sur sa machine.
Ouais, tout à fait. Et le but, c'est aussi d'utiliser toute la technologie d'intelligence artificielle, j'ai envie de dire, de Microsoft, ce qui s'appelle l'Intelligent Security Graph, qui permet quand même de faciliter la configuration de ce genre de service, par exemple en identifiant sur la machine la liste des applications qu'on fait tourner et ensuite qu'on va pouvoir whitelister. Donc voilà, on a vraiment derrière quelque chose d'intelligent, et c'est pas une techno bête et méchante comme AppLocker où on dit j'autorise, j'autorise pas. Là, on a quand même quelque chose de beaucoup plus complet et beaucoup plus simple à mettre en place sur les postes.
Donc j'ai pas regardé Application Control là, c'est une évolution de Device Guard ou c'est quelque chose qui vient à
Alors,
côté
c'est ça,
en
fait,
plus
c'est ça, c'est une évolution de Device Guard. Alors, Device Guard existe encore, hein.
Ah, d'accord.
C'est toujours compatible pour ceux qui l'ont. Alors pour info, c'est des fonctionnalités qui sont disponibles dans la version Enterprise uniquement, comme Device Guard et Credential Guard aussi. Donc le but, c'est effectivement de s'affranchir des contraintes qui existaient dans Device Guard pour avoir quelque chose d'un petit peu plus simple à mettre en place. Et du coup, alors je ne sais pas si vous connaissez Emmet, c'est un autre outil qui était vachement utilisé sur les anciennes versions de Windows.
Ah oui.
Donc c'est Enhanced Mitigation Experience Toolkit qui nous permettait de détecter des exploits, des vulnérabilités et prendre des actions de remédiation aussi sur les machines. Donc il faut savoir que cet outil, il était déprécié pour Windows 10, ce qu'a fait Microsoft à partir de la 17.09. Qu'ils ont pris en fait tout ce qui existait de bien dans Emmet et ils l'ont injecté dans Windows 10. Et donc ça s'appelle Windows Defender Exploit Guard. Donc là aussi, on vous mettra les liens, hein, pour découvrir comment ça fonctionne, pour découvrir comment le configurer et l'utiliser sur les machines. Donc là, on a encore, toujours dans la version Enterprise, quelque chose qui nous permet d'aller encore plus loin dans la détection, dans la réduction de la surface d'attaque sur notre poste, hein, du coup. Alors là encore, c'est des fonctionnalités qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, donc on va dire qu'on n'a pas encore trop de retours d'expérience dessus. Mais voilà, le but, je pense que dans les prochains mois, c'est déjà de poker la fonctionnalité, de vérifier comment elle se comporte, et puis après d'être capable de l'expliquer à nos clients ou en interne, si vous êtes directement chez un client final.
Ouais, puis les bons candidats, voilà. C'est ça, hein, c'est les postes, les bons candidats auxquels on peut penser en entreprise, hein, c'est soit les postes de type kiosque, je sais pas, dans les halls d'accueil, ce genre de choses-là, ou les postes d'administration. L'administrateur qui gère un Active Directory pour toute une grande entreprise, il a intérêt quand même à avoir un poste hyper verrouillé, quoi.
Et justement, alors dans ExploitGuard, ils ont aussi rajouté une fonctionnalité qui s'appelle Control Folder Access, qui permet en fait de dresser une liste des dossiers qu'on va en fait protéger. Et donc, on va se prémunir typiquement lors des attaques de type ransomware. Si on se fait attaquer sur son poste, globalement, nos documents, nos dossiers vidéo, images et tout ça, ils peuvent être chiffrés par le ransomware. Donc là, grâce à cette fonctionnalité-là, on va pouvoir dire, malgré le fait que l'utilisateur accède toujours à ses documents, on va verrouiller en fait l'accès à ces dossiers. Donc typiquement là dans l'exemple, ils prennent les documents, les images, les vidéos, et le but c'est de vérifier en fait ce qui se passe dans ces documents là et de bloquer un accès non autorisé en écriture, en modification aux fichiers qui sont dans ces dossiers. Donc, là encore, c'est basé après sur du machine learning, de l'analyse comportementale. C'est pas comme du AppLocker où on bloque tout, où on autorise tout. On a un petit peu plus d'intelligence derrière qui nous permet d'avoir quelque chose de plus élégant. Après, donc, si on continue, on a toujours bien sûr Windows Defender qui existe depuis un petit bout de temps maintenant dans Windows, qui a été intégré depuis Windows 8. On a toujours une amélioration du moteur. On utilise toujours le Microsoft Intelligent Security Graph pour améliorer l'intelligence de détection, l'analyse comportementale, etc. Donc il y a quand même pas mal de nouvelles fonctionnalités. Je vous conseille d'aller lire le blog post qu'on vous mettra dans le lien. Une autre petite fonctionnalité qui est assez sympa, c'est la possibilité maintenant, quand vous avez des licences Windows 10 Enterprise E3 ou E5 et que votre poste est connecté à Azure Active Directory, vous avez la possibilité maintenant d'aller activer automatiquement la licence de Windows. Vous savez, dans la suite typiquement Microsoft 365, quand vous utilisez tout le package avec la suite EMS, Office 365 et Windows 10, vous avez une licence utilisateur qui est Microsoft 365, et maintenant vous allez pouvoir activer automatiquement votre PC en utilisant l'identité de votre utilisateur. Ça, c'est aussi une fonctionnalité assez sympa. Je vous conseille de regarder un petit peu tout ce qui est sorti pour cette Fall Creators Update qui est sorti il y a un mois, notamment au niveau sécurité. Pas mal d'efforts a été fait, donc je vous conseille de regarder ça.
Ouais, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de choses dans cette version 17.09 de Windows. Et n'oublions pas le côté serveur, puisque Windows Server 17.09, donc en mode aussi mise à jour tous les 6 mois. Mise à jour, je ne sais plus comment on dit en français, mise à jour biannuelle, semi-annuelle.
Semi-annuelle, ça passe.
Voilà. Ok, donc sur le front maintenant...
Après, une fois qu'on a notre poste de travail Windows 10, il va falloir un petit peu le manager. Voilà. Alors, on a parlé d'autopilote tout à l'heure. On a aussi pas mal d'annonces qui ont été faites côté SSM et Intune, notamment une fonctionnalité qui va arriver, alors qui est déjà disponible en Technical Preview dans la version 17.09 de SSM, et qui arrivera en prod dans la version 17.10, qui devrait pas tarder à sortir. C'est ce qu'on appelle le co-management. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nom un petit peu barbare ? Il faut savoir que quand on a un poste Windows 10, avant, on avait un choix à faire. Soit on manageait notre poste via SSM, en installant le client SSM dessus, soit on prenait la décision de l'enrôler dans Intune pour le manager en mode périphérique mobile via des stratégies MDM. Le problème, c'est que certains clients aimeraient passer donc d'un mode de gestion avec le client SSM vers un mode de gestion MDM via Intune. Le problème, c'est que selon la taille de l'entreprise, on n'a pas forcément la capacité de faire une bascule entière, de supprimer le client SSM des postes et de réenrôler tous les postes à la main dans Intune. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément envisageable quand on a beaucoup de machines. Donc, c'est là où la fonctionnalité de co-management intervient. C'est la possibilité, toujours en conservant son client SSM sur sa machine, de dire « je bascule un certain nombre de workloads dans Intune ». Et donc, mon poste, il va être managé à la fois par les deux entités. Et on va pouvoir dire, bah, par exemple, l'accès conditionnel, au départ, il est géré par SSM. Et quand je suis prêt à basculer ma gestion de l'accès conditionnel via Intune, eh bien, je vais tout simplement activer cette fonctionnalité, le dire cette fois elle pointe plus vers SSM, elle pointe vers Intune, et comme ça on va pouvoir avoir une sorte de mode hybride pour gérer avec son client SSM et des périphériques classiques Windows et aussi des périphériques qui seront aussi managés par Intune. Donc ça c'est vachement pratique. Je vous conseille de regarder aussi les liens qu'on vous mettra sur le co-management. Il y a une session Ask Me Anything qui a été faite le 19 octobre par Microsoft où le but c'était de discuter avec l'équipe produit et de poser toutes les questions qu'on avait. Donc ce qui est bien, c'est que ça a été historisé, c'est comme une sorte de forum hein, où chacun posait ses questions, l'équipe produit répondait. Donc je vous conseille de regarder un petit peu comment ça fonctionne et si vous avez la possibilité de le tester, bah, vous pouvez déjà avec la Technical Preview faire quelques petits tests de co-management. Donc ça, c'est super pratique et le but, bah, c'est petit à petit de basculer tous nos postes d'un mode où je suis géré par SSM avec le client à un mode où bah, je suis entièrement géré par Intune en mode MD.
D'accord.
Je t'ai pas perdu, Pascal.
Non. J'étais en train de réfléchir aux implications de la chose. C'est super intéressant parce que ça permet de migrer, oui.
Bah là, typiquement, j'ai un projet client sur lequel ils ont des postes Windows 10 qu'ils ont enrôlés dans SSM. Et donc, ils se disent, bah, mes postes SSM, là, globalement, pour l'instant, ils ne se connectent à SSM, ils ne remontent leur statut d'inventaire, ils récupèrent leurs applications, ils récupèrent leurs mises à jour Windows, que quand ils sont sur le réseau interne de l'entreprise et qu'ils sont capables de contacter l'infra-SSM. Alors, il existe d'autres fonctionnalités pour gérer nos postes qui sont sur Internet ou en situation de mobilité, du coup, qui ne sont plus sur le réseau interne et qui n'utilisent pas de VPN. Mmh. On a donc ce qu'ils appellent le Cloud Management Gateway, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui permet d'exposer nos services SSM sur Internet. Et justement, le but, c'est aussi bah, de profiter du co-management pour dire bah, une partie des workloads, je les bascule dans Intune, comme ça je suis capable de manager mes postes quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Une simple connexion Internet suffit, j'ai plus besoin d'utiliser un VPN ou d'exposer mes serveurs SSM sur Internet pour que ça fonctionne. Voilà, et là, on a un vrai mode hybride Intune. Alors, il ne faut pas l'appeler le mode hybride parce que le mode hybride SSM Intune, c'est encore quelque chose de différent. C'est oui. Quand SSM gère l'autorité des périphériques mobiles. Et pour que le co-management fonctionne, il faut que notre plateforme Intune soit en mode standalone, qu'elle ne soit pas directement gérée par SSM. Donc voilà, c'est un petit peu complexe. Je vous conseille de regarder quand même le travail qu'a fait l'équipe produit Config Manager sur cette partie-là, d'aller lire aussi les Q&A disponibles sur la plateforme. Et donc ça arrivera très bientôt dans la version 17.10. Il faut savoir qu'il faut aussi utiliser la Fall Creators Update de Windows 10 pour que ça marche sur les postes.
Ok, ben on testera ça.
Il faut. Parce que c'est en fait l'avenir de la gestion des postes. Hein.
C'est basculer dans
un mode de gestion cloud, hein, si possible. Alors je sais que ce n'est pas un scénario qui est forcément viable pour tous nos clients. Mais en tout cas, on le voit de plus en plus et de plus en plus de DSI se posent la question de comment mettre en place un poste en rupture qui est managé de manière quand même sécurisée, sans être trop intrusif sur la machine, qui nous permet d'avoir un niveau de sécurité satisfaisant, tout en permettant des scénarios de mobilité qui sont beaucoup plus simples pour l'utilisateur.
On en reparlera certainement parce que
tout ça fonctionne. Du coup, on utilise Azure Active Directory. Oui. C'est toujours la brique d'identité cloud qu'on connaît. Mm. Alors, je ne sais pas si tu as pris connaissance des chiffres, mais ils sont plutôt impressionnants.
Ils sont fous.
Donc là, on a Alex Simons qui nous a fait aussi un blog post en reprenant bah, tous les stats d'utilisation d'Azure Active Directory. On est quand même sur des chiffres assez impressionnants. Qu'il faut savoir, là, on a plus de 12,8 millions d'entreprises qui sont sur Azure Active Directory, avec une moyenne de 950 millions d'utilisateurs. Donc là encore, on a une progression dans l'année qui est de plus 30% et plus 45% respectivement. Donc c'est quand même assez impressionnant. On a plus de 303 000 applications tierces qui sont disponibles dans Azure AD, qui sont soit fédérées avec Azure AD, soit disponibles dans le marketplace, justement pour avoir, pour utiliser notre identité cloud et pour s'authentifier et accéder à nos applications tierces. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et après, voilà, on a un petit chiffre sur qui utilise Azure Active Directory et qui utilise aussi la suite EMS. Donc, on a à peu près 54 000 clients Azure AD EMS chez Microsoft. Donc, 90% du top 500 fortune qui utilise Azure AD. Donc, c'est plutôt des chiffres assez élevés.
Ouais, ce qui est impressionnant, c'était les 950 millions d'utilisateurs. Là. C'est fou, ça.
Ouais, c'est énorme.
Et 13 millions de tenants, donc d'annuaires, en fait.
Ouais. Donc c'est au niveau mondial, hein, mais c'est quand même assez impressionnant. Sachant que le service, quand on regarde par rapport à la concurrence, il est quand même plutôt récent, même s'il existe depuis quand même quelques années.
Et donc
après, si on parle de synchro, alors le but c'est quand on a déjà une identité on-prem, hein, dans Active Directory, ben, pour avoir notre identité dans le cloud, en général on synchronise ses identités. Alors là aussi, on a quelques stats sur la synchro. On a plus de 180 000 tenants qui synchronisent leurs identités vers Azure AD. Donc, ça veut dire qu'ils ont au minimum un AD. Et donc, parmi ces 180 000, il y en a 170 000 qui utilisent Azure AD Connect, qui est la dernière version de l'outil de synchro. Donc, ça veut dire que les gens se tiennent quand même plutôt à jour sur les outils de synchro et sur tout ce qui existe pour notre gestion d'identité. Donc ça a été plutôt bien suivi et on voit qu'on a quand même une utilisation maintenant de plus en plus de fonctionnalités d'identité qui sont assez sympas. Alors par exemple, si jamais vous avez un ADFS ou un autre outil de fédération, vous faites partie des 55% d'utilisateurs actifs qui sont de type fédéré, donc qui passent par un outil de type ADFS ou autre. Voilà, donc vous regardez un petit peu cet article, il est plutôt sympa et ça vous montre que derrière on a quand même énormément d'utilisation d'Azure AD pour les services Office 365 et autres.
Tu avais une nouvelle à propos d'ADFS ensuite?
Alors c'est une petite nouvelle, effectivement, en fait, Microsoft, du coup, quand on regarde ces chiffres impressionnants, on se dit il faut que le service il assure derrière. Et donc effectivement, l'équipe met en place très souvent de la redondance au travers des data centers, bien sûr, de la résilience au niveau des CDN, des Content Delivery Network. Et donc le but c'est toujours d'assurer un service de plus en plus résilient. Donc pour ça, on a trois nouveaux endpoints qui ont été publiés par Microsoft. Et donc, si vous êtes dans un environnement fédéré avec ADFS, il va falloir mettre à jour votre relation d'approbation avec Azure AD pour prendre en compte ces nouveaux endpoints et être sûr que vous utilisez bien la résilience qui a été mise en place par Microsoft. Donc, on vous mettra le lien aussi, ces trois URL à rajouter dans votre Reliant Party. Et comme ça, vous êtes sûr derrière d'utiliser les dernières fonctionnalités de résilience qui ont été mises en place par l'équipe. Ça s'applique que si vous utilisez un environnement fédéré, ADFS ou autre. Il y a un petit changement de config à prendre en compte. Alors, si vous utilisez AD Connect pour configurer ADFS notamment, il faudra utiliser la dernière version d'AD Connect et lui, AD Connect sera capable de mettre en place directement ces changements sans modification. Mais si vous avez déjà mis en place votre infra, il faudra faire quelques petites modifications. Voilà, donc pensez-y, ça permet d'avoir un service toujours plus robuste. Après, alors on a beaucoup parlé de Windows, mais on va parler un petit peu de macOS, hein, et notamment l'accès conditionnel aux services Azure AD et Office 365 via macOS. Donc là aussi, on a quand même quelques annonces qui ont été faites. notamment Angea, le support de Google Chrome. Avant, on pouvait avoir de l'accès conditionnel que depuis Safari. Maintenant, on a enfin le support de Chrome pour l'accès conditionnel à Exchange, SharePoint, OneDrive, ce que vous voulez. On a aussi la compatibilité de l'accès conditionnel avec l'application Microsoft Teams, donc pour macOS. Hein, il faut savoir qu'elle existe aussi sur macOS et maintenant elle est entièrement compatible avec cet accès conditionnel.
Tout à fait.
Voilà, donc je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Regardez un petit peu ce qui se fait. L'accès conditionnel sur macOS, est, en tout cas, c'est vraiment une plateforme sur laquelle Microsoft avance. Là aussi, on a des fonctionnalités qui arrivent, qui sont intégrées dans les dernières versions de SSM sur la gestion, le support de la partie macOS. Hein, parce qu'au départ, Microsoft s'était vachement focalisé sur la partie smartphone avec iOS Android. Et maintenant, on s'occupe vraiment de la version OS, OS PC classique, enfin Mac, là-dessus. Donc c'est plutôt sympa.
Alors, après tout ça, ça c'était bien intéressant, Azure AD, comme d'habitude. Il y a quelques nouvelles qui concernent Azure, parce que Azure, c'est comme Azure AD, hein, dans le cloud, tout change chaque mois. Chaque mois, on a notre petit lot de nouveautés. Et donc là, il y en a un certain nombre qui sont que j'ai sélectionnés parce qu'elles m'intéressent plus que d'autres, soit parce que je les comprenais plus que d'autres, tout bêtement.
Forcément.
Et donc récemment, là, donc il y a un petit lot de nouveautés qui a été publié début novembre. Parmi les petites choses intéressantes, tiens, un truc qui a l'air anecdotique comme ça, mais qui est pas mal intéressant. Si vous utilisez Cosmos DB, donc le système de base de données managé, réparti, donc Cosmos DB, qui a remplacé DocumentDB, je crois, hein, si je ne m'abuse.
Je te crois sur parole, parce que pour moi, c'est une partie obscure. Il aurait fallu demander à notre Jean-Pierre National. Mais...
Ça concerne également un outil qui s'appelle Azure Storage Explorer, que tu connais peut-être.
Ah, lui, je le connais, oui, pour le coup.
Voilà, Azure Storage Explorer, c'est un outil qui n'est pas tout neuf, hein, qui permet d'accéder au stockage sur Azure, notamment au compte de stockage. Et c'est une appli qui fait partie de ces applis qu'on sort en open source, en multiplateforme, donc qui tourne à l'identique sur Windows, sur Mac, peut-être même sur Linux avec Storage Explorer, je crois. Un petit peu comme Visual Studio Code. C'est un petit peu développé avec les mêmes outils d'ailleurs, je crois, si je ne m'abuse. Des choses comme Electron. Bref, cet outil Azure Storage Explorer, maintenant, c'est dans sa nouvelle version, qui en tout cas en public preview, c'est accéder aux bases Cosmos DB. Donc on peut directement accéder à nos données Cosmos DB depuis Azure Storage Explorer, comme on le fait avec nos comptes de stockage. Donc voilà, il suffit de rajouter dans les ressources auxquelles on veut accéder nos informations de connexion à nos Cosmos DB.
Parce qu'avant, il fallait passer par Visual Studio pour le faire, c'est ça ?
Ou par le portail
Oui, ou par le portail, mais portail si on voulait Azure, utiliser un client...
J'avoue que je ne sais pas.
On va dire que oui, parce que bon, Visual Studio, il sait un peu tout faire.
Je pense, oui, il sait de plus en plus tout faire. D'ailleurs, à propos de Visual Studio, tiens, très bonne transition vers une petite parenthèse. C'est cette semaine l'événement Connect à New York, qui a commencé hier. Donc là, on est jeudi 16... Au moment où on enregistre ça, ça a commencé mercredi 15, et je crois que c'est jusqu'à ce vendredi. Et il y a pas mal de nouvelles, c'est un événement très développeur, hein, qui est streamé en live, vous pouvez voir ça sur le web en live, et je pense que ça sera enregistré également. C'est toutes les nouveautés concernant les outils de développement Microsoft, notamment Visual Studio, et il y a plein de choses qui ont été déjà annoncées hier, mais c'est très, très orienté développeur, donc... j'ai regardé le début et puis je me suis dit tiens, c'est pas tellement notre sujet, mais si ça vous branche, n'hésitez pas à aller chercher tout sur l'événement Microsoft Connect de cette semaine. Pour les développeurs, c'est la première source d'informations intéressantes sur les outils de dev. Je sais pas, il y a des trucs hyper impressionnants, j'étais bluffé quand j'ai vu ça, le développement collaboratif. Une personne qui développe un truc sur son PC, qui a un problème, qui contacte sa collègue qui elle travaille sur un Mac à côté, à distance, etc. Il peut partager sa session de code, sa session de debug, pour essayer de trouver le problème ensemble de façon collaborative. Chacun voit où il se trouve avec leur curseur dans le code, chacun peut débugger le code à distance, etc., jusqu'à trouver le problème. Enfin, c'est hyper impressionnant ce qu'on fait avec les outils de développement moderne aujourd'hui. Bref, parenthèse fermée, pour revenir à nos moutons Azure. Donc, deuxième nouvelle, oui, c'est les mises à jour automatiques d'OS dans les Azure VM Scale Sets. Tu as vu ça, Maxime ?
Donc, oui,
quand on fait un VM Scale Set, donc c'est un ensemble homogène de machines virtuelles qui utilise le même template, la même source, le même modèle de machine virtuelle, quoi. Et qui augmente, qui fait du scale out et du scale in. Donc qui augmente et qui diminue en fonction des besoins et des règles qu'on met dessus, des règles de scale out. Donc l'intérêt, c'est que toutes les VM sont homogènes. C'est assez utile pour des services qui sont plutôt stateless, de façon à pouvoir ajouter et supprimer des VM sans que ça ait d'impact sur les données de l'application.
Mmh.
Hein, on va persister les données en dehors du VM Scale Set en général.
Ouais.
Un petit peu comme des containers finalement. C'est un petit peu la même philosophie.
C'est la même philosophie, ouais, effectivement.
Donc là, ce qu'on a rajouté, c'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on fait généralement avec des containers. Hein. Avec des containers, on va quand il y a une nouvelle version de l'application ou de l'image de container, on va supprimer et remplacer les containers. À la volée comme ça. On ne va pas mettre à jour à l'intérieur des containers l'OS ou l'application elle-même. On va supprimer et remplacer le container par une nouvelle version. Mais là, en fait, on introduit la possibilité de faire un petit peu la même chose avec les images de VM dans les VM Scale Set, à savoir ce qu'on appelle le Automatic OS Upgrade. C'est en fait la possibilité d'automatiser le process de remplacement des VM à l'intérieur d'un scale set par la nouvelle image quand il y a une nouvelle version de l'image de base. D'accord ? C'est un petit peu le même principe que pour les conteneurs. Donc l'idée, c'est que les mises à jour vont se faire par lot, par batch, par groupe de VM à l'intérieur du scale set, par groupe inférieur à 20%, je crois, de la taille totale du scale set. Ouais, pas plus d'une VM sur 5 à l'intérieur du scale set pour pas perturber trop le fonctionnement du scale set. Donc on supprime, on remplace par les nouvelles images et on redémarre les VM à la volée de façon automatique. Donc tout ça, ça peut se faire de façon automatisée. On peut l'utiliser, on peut ne pas l'utiliser si on ne le souhaite pas. Et ça concerne 3 OS. Qui vont pouvoir bénéficier de cette automatique upgrade. Windows Server 2016 Data Center, Windows Server 2012 R2 Data Center et Ubuntu Server 16.04 LTS. Il y en aura d'autres au fur et à mesure que ça se développera.
Alors, ce qui est important de préciser, c'est que justement, en fait, le but, c'est que l'éditeur, justement, publie une nouvelle version de l'image. Et cette image, c'est très important, elle est maintenue et surtout certifiée par l'éditeur. Hein. Pour l'instant, on ne peut pas utiliser une image personnelle pour aller customiser nos machines. C'est quand même quelque chose de standard avec une image standard, pour le coup.
Donc en fait, dans le procédé, hein, c'est le disque système qui va être remplacé par la nouvelle image. Tout ce qui est données persistantes qui vont être sur d'autres disques, etc., vont être conservées. Mais c'est le disque système, le disque de l'OS, qu'on va remplacer par la nouvelle image. Et ensuite, une fois que c'est remplacé, la VM va redémarrer. Et évidemment, tous les custom scripts vont être réexécutés pour... évidemment, réinstaller les applications, faire toutes les initialisations nécessaires quand on introduit une nouvelle VM dans le scale set.
Oui, bien sûr, parce qu'après, il va falloir quand même la personnaliser un minimum pour que ça puisse fonctionner.
Exactement. Alors, nos infrastructures dans Azure, on les gère, on les manage, on les monitor, on les supervise, etc. On utilise nos outils pour ça, mais il y a des gens qui utilisent, des clients qui utilisent d'autres outils que les nôtres pour monitorer leurs infrastructures. Et il y a un outil qui est très populaire qui s'appelle Grafana, qui permet de monter des dashboards, des tableaux de bord, pardon, de supervision avec des graphiques sympas. C'est pas mal utilisé, c'est open source. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'une part ajouté une image d'un serveur Grafana dans le marketplace d'Azure pour que vous puissiez installer très rapidement un serveur Grafana. Mmh. Et en plus, introduit un plugin Grafana pour le monitoring d'Azure et de Application Insights. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir retrouver inclure dans votre dashboard de Grafana des graphiques concernant le monitoring d'Azure, Azure Monitor, et le monitoring des applications grâce à Application Insights. Donc des informations qui viennent des logs d'Azure et des applications. Donc,
top, oui, je regarde le screenshot, sont pas dégueux leurs graphiques.
Hein, c'est, hein, on peut le dire.
Ouais.
J'avoue que quand j'avais découvert Grafana il y a quelques mois, j'avais regardé comment on pourrait inclure des données d'Azure dedans. J'avais laissé tomber et j'avais bien fait. Puisque maintenant...
Bah, ils t'ont écouté du coup. Enfin, voilà, secrètement. Secrètement écouté.
c'est dispo maintenant. Un truc qui était en preview et qui est maintenant generally available, mais qui est très intéressant, c'est le backup de Windows System State grâce à Azure Backup. Jusqu'à maintenant, c'était en preview et avant, on ne pouvait sauvegarder que les fichiers, que les systèmes de fichiers de nos serveurs Windows. Grâce à Azure Backup, maintenant, on peut faire des sauvegardes complètes avec, y compris les Windows System State.
Bon, c'est pas pour troller, mais il était temps quand même, hein, parce que c'était quand même une fonctionnalité qui était vachement attendue.
On est d'accord.
Enfin, c'est en GA.
Azure Stack, tiens, parlons un petit peu très rapidement d'Azure Stack. Azure Stack, aujourd'hui, ne supporte pas encore tous les services d'Azure, mais petit à petit, on en rajoute au fur et à mesure, enfin, dans un ordre qui est dicté un petit peu par les demandes des clients, quoi. Ça a commencé par le IaaS, etc. Et aujourd'hui, on rajoute, enfin ce mois-ci, on a rajouté donc App Service, donc des services de PaaS, et Azure Functions dans Azure Stack. Donc vous pouvez aller avoir ces fonctions de PaaS directement dans votre data center sur Azure Stack.
Du coup, concrètement, faut faire quoi? Faut upgrader ses appliances pour en bénéficier?
Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que les mises à jour sont automatiques.
Ok. Parce que là, on est plus sur de l'ATP, du coup. C'est annoncé en GA, hein, si j'ai bien compris.
Oui.
Azure App Service et Functions.
Ouais.
Ok. Bon, à tester. De toute façon, je mets pas encore d'infra Azure Stack. J'ai pas les moyens encore.
Bah voilà, c'est le problème. On n'a pas les moyens.
C'est clair.
Mais bon, il y a le SDK qui permet d'installer sur une machine.
Ouais.
Un Azure Stack, donc il faut déjà une grosse machine, un peu costaud, mais bon, ça peut se faire. Ça peut se faire.
Ouais.
Reparlons un petit peu de Linux, si tu permets, Maxime. Y a un truc dans Linux qui s'appelle Fuse. Fuse, c'est quoi le principe? Ça veut dire File System in User Space. Le principe, c'est d'avoir des File System qui s'exécutent en User Mode. Donc c'est plus simple à développer que développer des File System en mode kernel. Donc c'est un système assez simple pour rajouter des file system dans un OS. Et ce qu'on vient de mettre à disposition là, c'est un adaptateur pour Linux Fuse pour les blob storage d'Azure. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis une machine Linux, vous pouvez, grâce à cet adaptateur Fuse, monter un blob storage d'Azure directement dans votre file system Linux. Et donc, faire des manipulations ensuite de fichiers directement sur ce blob storage. Comme si c'était dans le file system Linux. Donc on
c'est vachement pratique, ça, n'empêche.
C'est super pratique. Il y a encore quelques limites au niveau des fonctions qu'on supporte via ce montage. Notamment, on ne peut pas encore... on n'a pas encore le support des liens symboliques, des permissions, des flags, des locks POSIX. Donc si on a des applications qui utilisent ces fonctionnalités-là de file system, ça ne marchera pas. Mais par contre, tout ce qui est lecture, écriture, création de fichiers, suppression, etc., ça fonctionnera, et ça fonctionnera même très bien avec de très bonnes performances. Imaginez que vous avez une VM qui se trouve dans Azure et que vous montez un blob storage qui est dans Azure également, dans le même data center, ça va aller assez vite. Par contre, il y a certains scénarios qui ne vont pas être très performants par nature, et c'est notamment le scénario de modification de fichiers. Parce qu'en fait, pour modifier un fichier, on a besoin de charger le fichier complètement en local. C'est comme ça que ça marche pour l'instant. Donc c'est pas très performant. Mais par contre, pour tout ce qui est calcul, où on écrit de grandes quantités de données, où on lit de grandes quantités de données pour faire des calculs, pour faire des opérations, là ça va être super performant. Donc ça s'appelle BlobFuse.
Ouais, je vois ça. Donc du coup, tu peux partager ton même blob storage entre plusieurs OS. Bon, il ne faut pas écrire en même temps, de ce que je comprends. Mais...
J'imagine, oui. Oui, on n'a pas de lock.
Ouais.
Et là, ils mettent un exemple de où ils font du codage des vidéos avec FFmpeg directement sur le blob storage. Plutôt sympa, non?
Ouais, complètement.
Un peu geek, mais j'adhère. Sympa.
Un peu geek, mais mine de rien, il y a des vrais usages derrière. Hein, donc, ils n'ont pas implémenté ça pour le plaisir. Hein.
Voilà. Je terminerai avec AKS. Donc, AKS, c'est quoi? Ça veut dire Azure Container Service, entre parenthèses, pour Kubernetes. Donc, en fait, c'est un petit peu une évolution de Azure Container Service, ACS, qu'on connaît bien depuis un certain temps, qui avait, lui, trois options d'orchestrateur, hein, Swarm, Kubernetes et DCOS. Donc l'histoire veut que depuis quelques mois maintenant, Kubernetes a émergé comme le plus utilisé dans l'industrie pour l'orchestration de conteneurs. Ça ne veut pas dire que les autres, on les laisse tomber, hein, ça veut dire simplement que Kubernetes a un petit traitement particulier en ce moment. Et en l'occurrence, donc, on propose un AKS, qui est une évolution d'ACS spécialisée pour Kubernetes. C'est-à-dire que c'est un Kubernetes qui est managé par Azure. Donc le principe, c'est que vous pouvez installer un cluster Kubernetes très rapidement et très simplement, comme on faisait avec ACS, avec une ligne de commande Azure CLI, hein, ça se fait très rapidement, ou alors quelques clics dans la console. Et à la fin, au final, quand on compare ce qu'on a dans un resource group dans lequel on a mis un AKS et ce qu'on a dans un resource group dans lequel on a mis un ACS Kubernetes, la différence qu'on voit, c'est que côté AKS, ben, on a beaucoup moins de ressources que côté ACS. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tous les nœuds de management du cluster Kubernetes n'apparaissent pas. On ne voit que les nœuds agents de notre cluster. Et tout ce qui est management est en fait géré par Azure. Donc c'est ça l'intérêt de la chose, hein, c'est d'avoir un cluster qui est géré par l'infrastructure. Ça ressemble un petit peu, ça fait penser à ce qu'on trouve chez d'autres hébergeurs de cloud dans lesquels il y a des services de containers gérés et qui utilisent Kubernetes derrière.
Pas grand-chose. Alors en plus, contrairement à d'autres services cloud, AKS c'est gratuit. Et donc, vous avez payé le workload des VM, mais par contre, la partie management, là où parfois vous étiez facturé à l'heure pour d'autres providers, bah là, c'est vraiment gratuit.
On ne paye que les VM et le trafic et tout ça.
Ouais, c'est ça, le truc classique. Mais le management en lui-même du cluster, on ne paye pas. Quoi.
Voilà, on ne paye pas les nœuds de management, on ne paye que les nœuds agents. Donc, c'est économique, c'est performant, c'est sympathique. Et c'est compatible évidemment avec les outils. Hein. C'est vraiment le Kubernetes standard. Donc les outils kubectl, tout ça fonctionne parfaitement. C'est le Kubernetes standard en fait.
Top, top.
On a annoncé également en même temps la géoréplication de ACR, donc de Azure Container Registry. Donc notre registry privé d'images de containers.
Voilà. Super. Bon, on vous mettra tous les liens, hein, pour que vous puissiez... regarder et tester ça à tête reposée, parce que ça fait quand même beaucoup d'infos en une heure.
Ouais.
Mais en tout cas, ouais, y a pas mal d'annonces aussi sur la partie Azure.
Voilà, et c'est pas fini.
C'est pas fini.
Je vous encourage à regarder la page de la roadmap d'Azure, où c'est très bien fait, c'est très simple de suivre un petit peu l'actualité. Il suffit de regarder ça un petit peu tous les jours ou toutes les semaines pour suivre un petit peu ce qui se passe.
Super, ben merci Pascal.
Ben merci Maxime. Donc, tu repars en voyage là ou
non, c'est là, non. C'est fini. Je devais partir au Zimbabwe, mais finalement, ça, pas, ça va pas se faire tout de suite.
Non. Pas bon.
Non, en ce moment, il vaut mieux éviter.
Reste en France, reste ici, il fait chaud.
C'est ça. Bon, il y a de quoi faire en France.
Il y a de quoi faire. Ok, bah, merci Maxime. Bonne soirée. Je dis à tout le monde bon week-end.
Eh ben merci à toi aussi, et puis bonne soirée à tous. Et ouais, merci d'avoir écouté ce podcast.
Et à la prochaine. Merci, au revoir.